Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Comme disait Gédel Tinvormé, vous êtes la goutte et l'océan. Et du coup, moi je crois aussi, la radio, c'est mettre aussi le entre nous et les êtres. Il n'y a pas d'image, il y a un micro. Quand on parle du Maroc, on parle du monde. Mmh. Et ça, parce que c'est pas parce que je suis né au Maroc, je suis marocain, je le dis. Non, même si j'étais pas né marocain, je serais devenu peut-être.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision, et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, c'est Saïd Berkali, il est réalisateur de documentaires, directeur artistique, mais pas que, plein de cordes à son arc et plusieurs missions. Son dada, entre autres, mêlé action sociale et création artistique, de l'engagement, de la passion et la niaque qui va avec. Saïd Berkali, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
Oui, bonjour Karima, merci beaucoup, merci à vous. D'avoir en fait, de m'avoir invité pour échanger, pour pouvoir un peu dire et parler, surtout dans un monde où on a besoin de mots maintenant, et avec TOS, bien sûr. Moi j'ai commencé une vie en fait un petit peu pas ordinaire, on va dire. Mmh. J'ai baigné, j'ai grandi avec des frères qui étaient dans le scoutisme, dans le théâtre scolaire, etc. Donc j'étais obligé, avec le grand frère, avec le moralisateur du quartier. Et tout ça, on a vécu en fait avec un moralisateur qui éduque dans le quartier, mmh, et des gens qui nous orientent, le grand frère, l'oncle, l'ami de l'oncle, etc. etc. Mmh. Donc c'est une petite ville, je suis natif de Mouledris.
D'accord.
Mouledris, connu par la région de Ouelila.
Et Saïd Berkali, justement, vous venez d'en parler brièvement, voilà, vous avez un petit peu baigné dans cet univers, mais comment vous êtes retrouvé dans l'univers artistique ?
Artistique, l'art en fait, définissons l'art d'abord, l'art c'est un état d'âme, une manière d'être, c'est pas une créativité, que la créativité ou la création. Donc moi j'ai été dans une famille d'un frère décédé, Allah, qui m'a appris l'amour des gens. Un papa très modeste qui nous a appris de wacha, la modestie. Une mère militante, une mère forte, amoureuse de ses enfants, et qui a eu un rapport en fait avec nous de copains et d'amis, Allah aussi. Donc dans tout ce milieu en fait, on avait une forme de liberté. Liberté de choisir. Mmh. De choisir, sachant que cette ville organise un moussemch annuel, et il y a toutes les musiques de trance ou les musiques mystiques qui viennent à Mouledris. Donc ça passe par les défilés, la culture amazigh, par la fantasia et le hautbois, le reta, les Issawa, le Hadi ibn Issa avec le récital, les Sofis aussi. Donc nous avons baigné dans ce climat, et l'art, on ne le choisit pas, c'est lui qui nous choisit, c'est lui qui nous cherche. C'est un état d'âme. Mmh.
C'est joliment, voilà, joliment décrit en tout cas, Saïd Berkali. Et à quel moment vous décidez d'en faire un métier entre guillemets, ou une vocation, que ça devient vraiment ce que vous avez envie de faire tout au long de votre vie? Parce que voilà, vous touchez à plusieurs choses, mais qui mènent au même point, donc l'art encore. Exactement. Une fois. À quel moment vous décidez justement de vous, on va mettre ça encore une fois entre guillemets, professionnaliser?
Professionnaliser, c'était en fait, c'était toujours un rêve de petit garçon. Je me retrouvais en fait avec des jouets de journaliste, avec un microphone. Mmh. Je parlais avec des amis imaginaires.
Avec une imagination débordante.
Exactement. Avec un frère, eh ben, on ne peut pas aller dans des colonies de vacances si on ne lit pas, on ne fait pas le résumé d'un livre. C'était mon éducateur. Donc, le théâtre scolaire, parce qu'avant, c'était dans les écoles, on fêtait Eid al-Arsh de Hassan Thani, Allah rahmo, et on avait 2-3 mois de préparation avec des gens, on va dire, semi-professionnels, qui ont touché à l'art ou au théâtre amateur. Donc, de là où j'ai commencé, en fait, à savoir que ma timidité, je peux la noyer dans ce théâtre.
Vous étiez timide étant enfant ?
je suis convaincu que les gens de théâtre, les acteurs, ils étaient timides quand ils étaient enfants, mais ils cachaient leur timidité par la réplique ou par l'humour.
Ouais, vous n'avez pas tort, c'est vrai.
Donc, et puis l'acteur ou le comédien ou le metteur en scène, il y a une forme de paonisme ou de narcissisme un peu pas maladif, mais juste en fait croire qu'on a des choses à raconter, à partager avec l'humain. Il y a toujours l'humain et l'art. Et on m'a posé une question un jour sur c'est quoi un artiste. J'ai répondu, j'ai dit un artiste, c'est pas quelqu'un qui va nous créer un tableau, qui va nous peindre un tableau, qui va nous faire un film. Un artiste d'abord, c'est un être humain qui a une vision, un concept de ce monde.
Donc, un vécu aussi des fois, parce que même le vécu, il impacte un peu. Les rencontres également.
Vous savez, à Marseille, il y a un psychanalyste, un très grand psychanalyste qui disait « La vie est vide, elle se remplit de la rencontre. » La vie est vide, elle se remplit de la rencontre. Avec des rencontres que j'ai faites, en fait, que j'ai erré aussi dans le royaume. J'étais à Fès, j'ai rencontré Mohamed Al-Karat, Mohamed Rishida qui était un professeur. Donc, et on a eu une expérience aussi dans notre petite ville d'un très grand fondateur de théâtre, Mohamed Timour Al-Rahmou. Donc on a été abreuvé par les grands, sans le savoir. Après, de la mise en scène, parce que j'en ai fait l'Institut Royal de Formation des Cadres, j'ai fait le théâtre et j'ai travaillé sur le patrimoine et le théâtre. Et de là, avec des rencontres aussi en France, avec des tournages, j'ai compris que voilà, un metteur en scène peut aussi aspirer à avoir une vision, un angle de vision d'un sujet, surtout le documentaire, moi je suis fasciné.
Et justement, la réalisation de documentaire, c'est venu à quel stade ?
C'est venu avec ma fascination de choix de ma liberté. Quand j'avais 18 ans, je sortais. Bon, nous, on est une famille qui côtoyait un petit peu, on va dire, plus la culture arabo-musulmane, les Issaouas. Donc moi, quand j'ai eu ma liberté, j'ai choisi les Gnawa. Les Gnawa, c'est une culture africaine, c'est un peu, ça fait peur un peu au début, etc. Parce qu'ils sont, ils ont construit leur mythe sur le secret. Donc, quand j'ai pris ma liberté, quand je sortais le soir au Moussa, bien sûr, toujours, et quand il y a des nuits, mon grand frère, il allait voir ses Issaouas et moi, je vais aller voir mes Gnawa. Et de là, le sujet Gnawa m'a fasciné, m'a interpellé. C'est un film, un documentaire 52 minutes qui est passé à la deuxième chaîne marocaine, à Arte, à Marseille aussi, la chaîne locale. Et donc, c'était une quête, en fait, pour moi, la liberté. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens? Est-ce qu'ils ont gardé leur côté africain? C'est quoi ces cris-là? C'est quoi cet arabe un peu mélangé avec le langage des Bambara et des Hausa? Et de là, j'ai été, en fait, dans une fascination de ces gens-là, de ces Gnawa, de ces musiciens, de ces êtres humains. Et après, j'ai décidé en fait, de faire avec une Française, Anadi, qui est une réalisatrice, le film des Cris des Chênes sur Gnawa. C'était mon premier film. Et là où j'ai compris, en fait, j'ai savouré ce plaisir. Ce plaisir, on va dire, quand on est derrière la caméra et on a une vision et on raconte des choses de nous qu'on veut partager avec l'autre.
C'est ça la beauté d'un documentaire, c'est cette vision un petit peu, on va dire, réaliste. Voilà, c'est scénarisé quand même un petit peu des fois aussi, parce que voilà, on a un schéma de travail et tout, mais bon, c'est pas une fiction bien évidemment, mais voilà, c'est cet effet un peu réaliste qui est aussi, je pense, fascinant par rapport au documentaire.
Bien sûr, moi je me rappelle quand j'ai lu le livre de Le Talmud de Mohamed Choukri al-Rahmou, j'ai une introduction qui parlait d'un japonais qui est venu traduire le travail de Mohamed Choukri, et quand il l'a ramené à la source, il a dit, mais Mohamed, c'est pas ça la source que tu as décrit. Et Mohamed Chouk a répliqué par l'art embellit la laideur de la vie. Parfois, parfois dans le documentaire, on embellit, parfois on sublime le beau, et donc il y a toujours c'est une vrai. Touche personnelle. C'est là où il y a du subjectif, en fait. C'est intéressant, en fait, d'avoir, quand je compte une histoire, ou quand je traite un sujet, surtout dans le documentaire, il y a une partie de moi que je donne aux gens. Et c'est une partie, c'est offrir. Et offrir, c'est peut-être ou si c'est aimé.
Bien évidemment, et ça se ressent à l'écran. On ressent ça dans un documentaire. On ressent d'ailleurs même dans une fiction, mais dans un documentaire encore plus.
Un peu plus. J'ai eu la chance d'assister à un film de Rachid Loueli à Avignon la semaine dernière. C'est la première. C'est franchement, ce monsieur-là, il m'a. Quand j'ai vu son film, on va le voir au Maroc aussi, dans les écrans, etc. Mais vraiment, réconciliation ou de documentaire cinéma du réalisme avec une fiction où un immigré a appris par le médecin que dans les trois derniers mois qu'il va mourir, et son voyage, le retour au Maroc, avec un voyage qui est très simple, qui est très réel, mais d'un documentaire, on peut faire de la fiction, et de la fiction, on peut faire un documentaire. C'est la même chose, en fait. C'est la vision, c'est l'angle aussi d'attaque, mais aussi c'est l'approche, en fait, qu'on peut avoir.
Exactement. Tout est question de vision et d'approche. Au final, Saïd Berkali, donc, comme on en a parlé un petit peu lors de mon introduction, vous avez plusieurs casquettes, mais encore une fois, le seul et même but. En gros, toutes ces casquettes mènent au même point. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre, ou est-ce qu'on ne parle pas d'équilibre? Tout prend place de façon naturelle.
Il n'y a pas d'équilibre, l'art c'est une transe, c'est une transe. Ouais. On est attiré parfois par le nez, on est attiré par le haut-poilret, on est attiré par les jauges, mais ça rejoint la même chose, l'humain avec ses valeurs universelles, l'amour. L'amour. La direction artistique, je les ai apprises avec les Allemands, ne laisser aucune chance pour le hasard, c'est l'art. Le sens du détail. Et la mise en scène réalisée, c'est la même chose en fait, sauf quand on devient réalisateur, on est obligé de passer par comprendre d'abord la caméra, comprendre les plans, savoir un petit peu le mécanisme, la vitesse, la lumière, etc. Et comme disait Picasso, on apprend les règles de l'art pour les transgresser après.
Exactement.
Voilà. Et revenons à ces. J'ai fait de la radio, par exemple.
Vous avez une voix radiophonique. Hein. J'allais vous le dire à un moment, mais j'attendais le moment opportun.
C'est très gentil. J'en ai fait. Hadith Arbea, dictant de mercredi. Je ne préparais rien. Je me disais, mon moteur, c'est l'amour et l'écoute. Et dans l'écoute, en fait, vous savez, on a deux manières d'écouter les gens. On écoute parfois par les oreilles et parfois on écoute par le cœur. On a deux visions de regarder le monde. On a une vision des yeux physiques, on a une vision du cœur. Voilà, l'intérieur. Quand on écoute les gens avec sincérité, on peut être, pas leur pied, mais on peut être un éveilleur de conscience. Et cela me plaît de transmettre, d'exprimer mon amour envers l'humanité, la créature et le créateur. Et quand on porte cette beauté en nous, on ne veut que la partager, parce que sinon on va se suffoquer de notre propre amour.
C'est vrai, c'est une énergie qui reste à l'intérieur. Si on la garde bloquée, ça nous donne limite une boule au ventre.
Une tristesse.
Exactement.
Une tristesse et un questionnement existentiel. Qu'est-ce qu'on fait dans cette vie? Il y a des êtres qui portent toujours cette lumière. Donc j'en suis convaincu. Comme disait Gélène Théoromé, vous êtes la goutte et l'océan. On est les deux, en fait. L'ensemble et l'élément.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous m'avez dit un tout petit moment que l'art est venu à vous, ça se ressent, parce que tout au long de ces casquettes entre guillemets que vous avez eues, tout est venu à vous de façon naturelle et spontanée. Vous n'avez pas vraiment, on va pas dire vous n'avez pas fait d'efforts, mais vous n'avez pas cherché en fait à faire ces choses-là. Et je pense que l'impact est beaucoup plus important quand ça se passe de cette façon. Et beaucoup plus sincère aussi, surtout.
C'est l'inné qui est cultivé.
Voilà, exactement.
C'est l'inné cultivé, c'est une passion, c'est de l'amour aussi, c'est le temps, c'est croire à ce qu'on fait, c'est aussi transmettre, c'est ne pas rentrer dans la confusion de dire c'est une star, c'est un artiste. C'est vraiment, ça c'est un autre problème, mais se dire... dans ma rencontre avec mes spectateurs dans une projection, si je vois 300 personnes, si j'arrive à me connecter avec ces 300 personnes, c'est déjà pour moi, c'est trop, et c'est beaucoup. Donc est-ce qu'on va être artiste aux yeux de l'autre, ou est-ce qu'on va être artiste à nos yeux?
Telle est la question.
Est-ce qu'on va être la star ou l'artiste?
Ouais.
On choisit. Est-ce qu'on va être connu et on va passer par les rues, etc., etc., huées, etc., etc. Ou d'ailleurs, pour cette raison que j'ai choisi la radio, pour me dire, tiens, je vais donner mon... Parce que quand vous êtes mieux placé que moi, Karima, pour me dire que la radio, c'est fascinant aussi de se trouver derrière un micro, de parler
aux êtres
qui vous connaissent pas, mais vous les connaissez. Parce que vous faites du profil, vous parlez avec beaucoup de profils. Vous apprivoisez ce micro. Et en même temps, vous ne mettez pas que votre voix, vous mettez aussi votre cœur.
Il y a quelque chose de rassurant aussi. Il y a quelque chose de rassurant derrière un micro.
Bien sûr.
J'ai l'impression qu'il y a toujours il y a un petit sentiment de confort.
De confort et en même temps, il y a une forme de plaisir.
Bien sûr.
C'est parfois on a l'impression que on est devant 1000 personnes, 2000 personnes. Ouais. Parfois on sent qu'on est isolé, qu'on arrive en fait à taper sur les portes pour que ça s'ouvre et que les gens nous entendent un peu.
Ouais.
Et du coup, moi je crois aussi la radio, c'est mettre aussi le entre nous et les êtres. Il n'y a pas d'image, il y a un micro. Il y a un certain moment nos micros.
Je vous rejoins parfaitement, Saïd Bakali. Dans la continuité cette fois, est-ce que vous avez un objectif que vous souhaitez atteindre, ou est-ce que vous avez un rêve que vous avez envie de concrétiser sur le plan professionnel, sur le plan de votre carrière, alors que ce soit dans le futur proche ou lointain?
Franchement, je suis sur beaucoup de projets, beaucoup de projets, parce que ici, je suis très actif aussi au niveau associatif, au niveau diplomatie parallèle, c'est la question du Sahara, la question de l'unité nationale, la question de l'islamophobie. Donc, mon rêve, c'est pouvoir faire. Je travaille sur un clip d'une chanson nationale, et ça m'a ramené à ma marocanité. Vous savez, la personne, même s'il ne vous aime pas, la personne vous hait, et à un certain moment, à force d'écouter, d'entendre la même phrase qui se répète, le cerveau, l'inconscient prépare des répliques. Et moi, je suis sorti avec une chanson. Un refrain est sorti, vous m'avez ramené à ma marocanité, vous m'avez ramené à cette question nationale, et j'ai pu faire une chanson grâce à cette haine. C'est rebondir, peut-être, à l'alliance d'une manière ou d'une autre. Et là, je travaille sur cette chanson, bien sûr, et qui tient beaucoup à cœur, parce que j'ai mis aussi une partie de moi. Une partie de moi, je n'ai pas choisi de décrire les chansons, parce que je ne suis pas écrivain, je ne suis pas auteur de chansons. Et pouvoir continuer de faire des documentaires sur la marocanité, sur le monde et le Maroc, et sur l'humain au Maroc, parce que quand on parle du Maroc, on parle du monde. Et ça, parce que c'est pas parce que je suis né au Maroc ou je suis marocain que je le dis. Non, même si j'étais pas né marocain, je serais devenu peut-être. Et je me dis, ce Maroc-là, le Nord, qui a une culture un petit peu Tritouq al-Jabaliya, qui a une culture des montagnards, mélange avec l'Andalus, Rabat, les Andalous, les Mauresques, Sahara, Hissaniyin, l'Arabe, Mouledris, l'Adarissa, on est un pays qui est plein de culture.
C'est vrai.
Plein de culture, de voir le monde autrement, de préparer le Marocain de demain pour être un citoyen du monde en étant attaché à sa patrie. Fierté, ça ne s'exprime pas. Je ne l'ai jamais dit, moi. Jamais dit, je suis fier d'être Marocain. Je le pense, je le suis.
Ouais, et ça, c'est le plus important.
Je
n'ai pas
suis.
Besoin de le dire, c'est vrai. Et ben, c'est sur ce très beau message, Saïd Bakali, que se referme notre échange, notre discussion. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir, d'échanger et de papoter. Et puis, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci beaucoup. À vous aussi. C'est très gentil à vous. Est-ce que j'ai une minute de vous dire, en fait, juste un petit poème?
Bien sûr, allez-y, avec plaisir.
Mon cœur devient capable de toute image. Il est prairie pour les gazelles, couvent pour les moines, temple pour les idoles, Mecque pour les pèlerins. Tablette de la Torah et livre du Coran. La religion que je professe est celle de l'amour. Partout où se dérive ses montures, l'amour est ma religion et ma foi. Merci beaucoup, Leïla Karima.
Merci beaucoup, Saïd Bakali, pour ce très beau moment. Et à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup encore
à
une
bientôt.
Fois.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.